Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des troubles psychotraumatiques et de leur prise en charge avec Yoram Mouchnik, qui est psychologue, psychothérapeute, docteur en anthropologie, professeur à l'Université Toulouse-Le Mirail. Il vient de publier avec d'autres psychiatres et psychologues « Manuel des psychotraumatismes » aux éditions La Pensée Sauvage. Et nous avons maintenant au téléphone le docteur Bamba Diop, qui est président de l'Ordre des médecins du Sénégal. Il est directeur du Centre de rééducation médicale, sociale, psychologique, juridique des victimes de torture, VIVRE, qui se trouve dans la région de Thiès au Sénégal. Docteur Bamba Diop, bonjour.
Oui, bonjour.
Que propose de façon concrète votre centre ?
Notre centre est un centre de réhabilitation des victimes de violences et de torture, qui fait dans la réhabilitation médicale, dans la réhabilitation psychologique, et dans la réinsertion sociale. Et donc, nous avons cette expérience depuis une dizaine d'années, en collaboration avec le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies et le Centre, le Conseil international de réhabilitation des victimes de torture basé au Danemark.
Qui vient vous voir ?
Nous recevons essentiellement des nationalités africaines, à peu près une quinzaine de nationalités différentes. Ça va du Congo à Mauritanie, Côte d'Ivoire, de Namibie, d'Éthiopie, du Soudan, et récemment aussi du Mali, de Tombouctou. Nous avons reçu des personnes venues là-bas, mais aussi des victimes sénégalaises. Hein. Nous avons reçu des victimes, notamment lors des manifestations préélectorales, et nous sommes souvent aussi saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur les victimes de violences ou de torture.
Les personnes qui viennent vous voir hors du Sénégal, ce sont en fait des migrants qui ont abouti au Sénégal, c'est ça ?
C'est ça, ce sont des migrants, des victimes de conflits, des victimes qui viennent des pays limitrophes et qui arrivent au Sénégal et qui viennent à travers les frontières et qui finissent le plus souvent au niveau de notre centre et qui bénéficient des prises de soins médicaux, de soins de réhabilitation, de groupes thérapeutiques, etc.
Et alors justement, de façon concrète, en quoi consiste la prise en charge psychologique que vous proposez ?
Alors, la prise en charge psychologique que nous proposons constitue une méthodologie d'évaluation psychologique des séquelles de torture. Parce qu'en réalité, lorsque les personnes ont été traumatisées, s'il s'agit de traumatisme physique, la plupart du temps, lorsque ces personnes arrivent, elles arrivent à un moment donné où les séquelles physiques ont disparu, où il n'est pas évident de faire une liaison de cause à effet entre la cicatrice qu'on voit et le traumatisme qui a été occasionné. C'est là où prend l'importance de l'évaluation médicale et psychologique de ces traumatismes pour voir est-ce que, en réalité, si on arrive à faire un entretien psychologique et si on arrive à évaluer, est-ce qu'on peut aboutir à affirmer qu'il y a eu des lésions psychologiques qui ont été liées à un traumatisme récent ou à un traumatisme plus ancien et qui corroborent le récit que dit la victime. Et cette évaluation psychotraumatique est une évaluation qui est faite dans le cadre de groupes de thérapie individuelle ou de thérapie collective par des psychiatres qui travaillent avec nous au niveau du centre. Et c'est extrêmement important, c'est parce que c'est sur cette base-là que nous pouvons documenter justement les allégations d'actes de torture ou d'actes de violence. Et ça, c'est une méthodologie qui est extrêmement importante et qui finit par montrer que, du coup, de cette évaluation, à partir d'un entretien fait dans une certaine condition, sur la base d'une documentation et d'une méthodologie définie dans le protocole d'Istanbul, que, en tout cas, on peut affirmer que ces victimes ont été traumatisées, qu'elles ont été torturées et qu'on arrive à définir un profil psychologique assez précis, d'où une prise en charge sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan psychologique, s'il le faut.
Yoram Mouchnik, je voudrais vous faire réagir par rapport à ça sur deux éléments. D'abord, le premier sur la torture, vous en parlez longuement dans ce manuel des psychotraumatismes, sur comment prendre en charge les victimes justement de torture.
Alors, la torture a amené des cliniciens, donc là on a la contribution de Françoise Cironi, des contributions à, des cliniciens à innover. Alors, chacun, bien sûr, dans son champ, a développé un certain nombre de d'idées, hein, d'idées théoriques et d'idées cliniques, Françoise Cironi finalement combat ce qu'elle appelle le tortionnaire intériorisé à l'intérieur de la personne torturée, et elle fait un travail psychothérapeutique pour essayer finalement de sortir hein, ce tortionnaire intériorisé qui continue finalement, bien après, des années, des mois, après les actes de torture, à torturer la victime.
À torturer par des voix qu'elle entend, ou elle entend son bourreau, c'est ça ?
Les voix du bourreau, la présence du bourreau, bien sûr les cauchemars, toute une anxiété et une angoisse qui perdure par rapport justement à la promesse du bourreau de dire à la personne finalement tu ne te débarrasseras jamais de moi.
Et est-ce qu'elle arrive finalement, la victime, à s'en débarrasser ?
Alors, dans le travail justement de faire sortir un petit peu le bourreau intériorisé, Françoise Cironi a développé toute une méthodologie, un petit peu de travail psychothérapique, qui effectivement donne des résultats positifs. Mais je crois qu'il faut être très lucide que les cliniciens utilisent différentes méthodes, chacun à sa façon, avec sa personnalité, et qu'il n'y a pas une recette. Hein. Il n'y a pas de recette, il y a des pratiques, des liens, des formes de transfert et de contre-transfert qui se mettent en place et qui vont contribuer finalement à soulager, à accompagner, à soigner et quelquefois à guérir.
Docteur Bambadiop, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans la prise en charge de ces victimes ?
Alors, les difficultés sont des difficultés d'abord en termes de guérison. Je crois qu'on n'arrive pas, ce que disait le collègue tout à l'heure, dans ma petite expérience, je ne pense pas qu'on guérisse quelque part de ce type de traumatisme. On s'y habitue et finalement, on a beau être résilient, on arrive à vivre avec. Mais on s'y habitue simplement. Et la première difficulté, c'est d'arriver à une réhabilitation où on peut dire que notre malade, notre victime est guérie. Non, je ne pense pas. On arrive à un niveau où on s'adapte, où on s'habitue à ce traumatisme, où on vit avec ce traumatisme. Et si on arrive à vivre avec, à avoir un minimum de relations aussi bien familiales, individuelles que communautaires, je pense qu'à ce niveau-là, on a. Et la difficulté majeure, donc, c'est d'abord avec le matériel de travail qu'on a. Est-ce qu'il est possible, dans nos méthodes de travail, d'arriver à documenter correctement ces actes de torture ? Tant qu'il s'agit d'actes de torture, de sévices sexuels, etc., comme on l'a vu dans les événements de Guinée, où on avait reçu plusieurs femmes de Guinée qui ont été victimes de viols, suivies de grossesses, victimes de traumatismes sexuels, suivies de sida, etc., nous avons pu faire de façon très facile la relation de cause à effet et à documenter cela et à faire le tout. De l'autre côté, les difficultés vont être bien sûr des difficultés d'ordre subventionnel, parce que nous avons des centres qui ont très peu de moyens, c'est le fonds de contribution volontaire qui donne ces subventions et que depuis quelques années, les subventions diminuent d'année en année. Et donc, par ricochet, on a des problèmes, effectivement, de personnel, des problèmes d'intendance, etc. Mais le travail, globalement, fait en liaison avec les autres structures de santé, je pense, arrive à donner un maximum, un minimum de soins, un minimum d'offres de services qu'attendent les victimes dans ce sens-là. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes très confiants de peut-être la présence de nouvelles autorités au niveau du département de la santé, parce que ça comprend un peu mieux les problèmes que l'on pose. Et je crois que ces structures de santé reliées aux structures de santé trouvées sur le plan local, sur le plan administratif, peuvent peut-être associer des moyens et donner un maximum de services à ces victimes-là.
Merci beaucoup, hein, Dr Bambadiop. Je rappelle que vous êtes directeur de Vivre, un centre de prise en charge des victimes de torture qui se trouve dans la région de Thiès au Sénégal. Yoram Mouchting, une deuxième réaction par rapport à ça, c'est peut-être d'abord celle de dire que toutes ces victimes de guerres, de catastrophes naturelles migrent plutôt dans les régions du Sud et n'arrivent pas forcément dans les pays occidentaux en termes de prise en charge.
On sait qu'il y a principalement une migration du sud au sud. Hein. Il faut savoir qu'effectivement, la Convention de Genève est de moins en moins respectée, que les réfugiés ont du mal à faire valoir leurs droits par les politiques actuelles, et notamment en France.
Priorité santé, Claire Hédon.
Et aujourd'hui, je reçois Yoram Mouchnik, qui est psychologue psychothérapeute. Il vient de publier avec d'autres psychiatres et psychologues Manuel des psychotraumatismes aux éditions La Pensée Sauvage. Quel est l'objectif finalement de cet ouvrage où vous racontez plusieurs formes de prise en charge de victimes de traumatismes ?
Alors, cet ouvrage est bien sûr destiné à la fois au grand public, mais beaucoup aux professionnels et aux étudiants. Alors, il a l'intérêt, dans l'espace francophone, de rassembler des contributions aussi bien du travail sur les psychotraumatismes en France, mais du travail dans les ONG, en Afrique, en Amérique, en Asie, hein, et de montrer différentes possibilités cliniques et différentes expériences qui ont rarement été rassemblées dans un seul ouvrage.
Vous dites d'ailleurs dans cet ouvrage que les reconstructions traumatiques sont plus difficiles dans l'exil. Pourquoi ?
Bah, disons que l'exil, bon, il y a toute une clinique hein, de l'exil, hein, ou aussi une clinique un petit peu de la migration, mais c'est sûr que la reconstruction à la fois où se surajoutent les effets de l'exil ou de la migration peut être plus difficile, mais je crois qu'il faut avoir un point de vue aussi très nuancé. Quelquefois, c'est l'éloignement qui va permettre de se reconstruire plus facilement, parce que d'une part, on est hors de danger, mais aussi parce qu'on peut éloigner un petit peu les cauchemars et toutes ces images très angoissantes, que ce soit de la maltraitance, de la torture, et quelquefois aussi des catastrophes naturelles.
Dans cet ouvrage, donc, le manuel des psychotraumatismes, vous parlez de plusieurs méthodes, on pourrait dire comme ça, de prise en charge de ces victimes de traumatisme. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant dans cette émission de celles qui sont basées sur la parole, des psychothérapies. Vous parlez de d'autres méthodes, entre autres la relaxation thérapeutique. De quoi s'agit-il exactement et qu'est-ce que ça peut apporter ?
Donc on a une contribution très, très intéressante hein, de Mathilde Laroche-Joubert par rapport justement à la relaxation et justement qui s'adresse au traumatisme précoce de l'enfant, hein, de l'enfance, d'avant la parole. Hein, et elle met bien en relief, hein, elle le fait aussi après Lionel Bailly, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, elle met bien en relief pour que ces enfants traumatisés avant la parole, bah, c'est inscrit au niveau du corps et que c'est à travers le corps qu'on va pouvoir faire émerger un lien entre représentation, éprouvée sensorielle, et ça va être une voie de dégagement par rapport au psychotraumatisme. Elle donne un exemple tout à fait extrêmement intéressant justement et éclairant.
Vous pouvez nous
dans
le donner
le
cet exemple ?
Ah bah, c'est un enfant qui a été traumatisé dans les Balkans, hein, avec les bombes, les attaques, etc. Et à travers justement la relaxation, vont émerger un petit peu toutes ces impressions qui étaient inscrites dans le corps et refoulées, et il va trouver un lien avec la parole, et il va pouvoir se dégager un petit peu de l'emprise du psychotraumatisme.
Et d'ailleurs, cet enfant qui s'appelle Julien hein, avait des bruits permanents de bombes, justement, de guerre qui revenaient, et des bruits qui l'imitaient aussi.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent sur le traumatisme ?
Alors, on a une contribution très importante hein, de Lisa Housse, hein, qui est pédopsychiatre et chercheur. Et Lisa Housse développe, je dirais, toute une contribution qu'elle va appeler la neuropsychanalyse, qui lie justement l'avancée des neurosciences avec un petit peu ce qu'on sait en psychothérapie et en psychanalyse. Et elle développe cette discipline où elle montre effectivement que ces deux aspects ne sont pas contradictoires, mais au contraire sont tout à fait complémentaires. Et c'est ce qu'elle montre dans cette contribution, où elle va travailler sur l'imagerie médicale, elle va travailler aussi un petit peu sur les mesures endocriniennes, et elle va montrer un petit peu comment la psychothérapie, la psychanalyse, mais aussi un petit peu l'évaluation des neurosciences par rapport au système nerveux central sont tout à fait complémentaires pour comprendre un petit peu les phénomènes et aussi pour les traiter.
De façon très concrète, sans rentrer dans les détails, hein, parce que vous n'êtes pas un scientifique, mais ça voudrait dire qu'à l'imagerie médicale, par des radios, des IRM, on peut voir dans le cerveau les marques de ce traumatisme ?
Il y a des marqueurs, oui, il y a des marqueurs, et les chercheurs travaillent de plus en plus sur l'objectivation de ces marqueurs.
Il y a une autre question que vous abordez dans cet ouvrage et qu'abordent beaucoup de personnes victimes de traumatisme, c'est la question du sens. Pourquoi moi ? Pourquoi tout ça est arrivé ?
Alors les psychotraumatismes, alors ça peut être la torture, ça peut être les catastrophes, ça peut être bien sûr les guerres, c'est certainement cette idée d'une agression qui a des caractères insensés, qui contribue finalement à quelque chose de l'ordre d'un quasiment de la folie hein, de la personne qui va être touchée. Et effectivement, souvent, ça va rester insensé, mais il y a une espèce de construction pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé.
Et dans le vouloir trouver une explication, c'est ça ?
Alors, Je ne sais pas si c'est de trouver une explication, hein, parce que la torture, c'est souvent des luttes politiques. Il y a des choses tout à fait complètement insensées. Mais essayer d'élaborer un petit peu ce qui s'est passé, de trouver un petit peu à quel moment on a été touché, quelles sont les conséquences, quelle est la dynamique aussi des agresseurs, c'est des choses qui contribuent, hein, à la compréhension et à donner une forme de sens tout à fait indispensable.
Et ce sens indispensable à la reconstruction, c'est bien ça.
Oui.
Vous parlez aussi dans cet ouvrage des réactions des thérapeutes face à ces récits de traumatisme.
Alors, dans le courant, enfin, je crois qu'il faut bien souligner que c'est sous l'impulsion du professeur Marie-Rose Moreau, Thierry Bobet, que tous ces cliniciens, finalement, se sont mis en mouvement à travers des travaux de recherche, mais aussi, bien sûr, les consultations qui existent déjà à l'hôpital Avicenne sur le psychotraumatisme. Et l'idée, effectivement, qu'il va falloir aussi comprendre la position et les réactions des thérapeutes, car être soumis donc au trauma, comme le souligne bien Christian Lachal, c'est à ce moment-là développer aussi des réactions, des formes de contre-transfert très particulières liées au traumatisme. Et qui
alors
ont
là,
été...
faut que vous expliquiez au grand public les histoires de transfert et de contre-transfert, excusez-nous, mais c'est du jargon de psy qui est difficilement compréhensible par le grand public.
Alors, l'idée, c'est qu'un thérapeute qui est soumis au récit de traumatisme gravissime, il ne va pas sortir indemne, lui non plus, bien sûr, pas à égal de la victime, mais qu'il va falloir travailler là-dessus. Hein. Et Christian Lachal développe toute une théorie très très intéressante et porteur de recherche sur justement ce qu'il va appeler les scénarios émergents. Un petit peu comment le thérapeute se représente un petit peu le récit et qu'est-ce que ce récit provoque en lui et comment l'analyse un petit peu, l'analyse interne qu'il va faire un petit peu de ce que ce récit provoque en lui va l'aider à travailler avec son patient.
Et de façon concrète, ça voudrait dire que ces thérapeutes qui travaillent sur ces questions de psychotraumatisme ont aussi besoin d'être accompagnés, d'avoir des lieux d'écoute où ils peuvent parler de ce qu'ils ont entendu auprès de leurs patients.
Alors tous les thérapeutes ont besoin de supervision, hein, mais confrontés au récit du psychotrauma, surtout aux récits les plus graves, les thérapeutes vont avoir besoin de réfléchir un petit peu sur leurs éprouvés, hein, sur leurs ressentis et sur leurs réactions par rapport à ce récit.
Une dernière question avant de terminer cette émission et de parler d'un colloque sur l'Ayurveda. Vous parlez aussi des gachacha au Rwanda suite au génocide. Des tribunaux populaires ont été mis en place, ces gachacha. Il a fallu du coup que des victimes témoignent et on comprend bien que ça a posé des problèmes justement de re-raconter leur histoire dans un contexte de violence.
Alors c'est un travail considérable, hein, qui a été développé avec Marie-Odile Godard et des psychothérapeutes rwandais pour effectivement travailler avec ces victimes qui témoignaient et effectivement ne pas aggraver les souffrances des traumas et reprendre un petit peu ce qui se faisait dans ces tribunaux populaires, mais qui étaient souvent l'occasion d'une souffrance terrible, hein, d'une retraumatisation des victimes.
Et là, les psychologues finalement ont accompagné, on peut dire, ces victimes dans leurs témoignages.
Pas seulement, elles ont aussi repris tout un travail ensuite avec ces victimes, après justement leur témoignage dans les tribunaux populaires.
Yoram Mouchnik, merci. Hein. Je rappelle que vous venez de publier avec d'autres psychiatres et psychologues ce manuel des psychotraumatismes. Ça paraît aux éditions de La Pensée Sauvage. Merci beaucoup Yoram Mouchnik. Et pour terminer cette émission, je vous propose de parler d'un colloque sur l'Ayurveda qui va se dérouler la semaine prochaine en Normandie. Kiran Vyas, bonjour.
Bonjour, bonjour Claire.
Vous êtes responsable, hein, de ce centre Tapovan qui a une antenne en Normandie et une à Paris. Peut-être que ce serait bien de nous réexpliquer tout d'abord ce que c'est que l'Ayurveda.
Voilà, l'Ayurveda est une médecine en Inde. L'Ayurveda est reconnue comme médecine par OMS, Organisation Mondiale de Santé, mais c'est plutôt un art de vivre et science de vie. C'est une science holistique où l'être humain est pris en charge d'une façon globale, physique, émotionnelle, mentale, morale, et psychique et spirituelle.
De façon assez concrète, on peut dire que c'est une médecine qui est basée sur les plantes et sur le massage.
Voilà, c'est-à-dire c'est une médecine qui est basée vers l'environnement, vers le côté naturel et côté holistique, c'est-à-dire les plantes, les massages, les produits naturels et en même temps tout un côté psychique et spirituel qui est pris en charge.
On assiste vraiment à un engouement pour cette médecine ayurvédique dans les pays occidentaux. Pourquoi ?
Les pays occidentaux s'ouvrent maintenant plus en plus vers une certaine profondeur d'un côté, et puis d'autre part, les pays occidentaux s'intéressent aussi vers le côté caché de l'être humain. Nous sommes tous un peu comme des icebergs. Il y a un côté qui est visible, mais l'autre côté qui est profond et caché. D'autre part, l'Occident s'intéresse maintenant plus en plus vers quelque chose de global et holistique, c'est-à-dire un médecin qui est un médecin du cœur, et s'il ne s'occupe pas du foie ou de vésicules biliaires ou d'autres parties du corps, ça c'est limité. Aujourd'hui, on cherche un bien-être global et en même temps dans certaines douceurs. Et c'est pourquoi médecine base des plantes, médecine et pratique avec des massages et tout cela, ça c'est bien apprécié. Et aussi, les gens ne veulent pas souffrir la douleur, les stress, tout ça on a envie d'éliminer ou bien au moins diminuer.
Est-ce que cette médecine ayurvédique est encore très utilisée en Inde et par qui ?
Voilà, en Inde, vraiment, c'est une médecine légale, médecine valable. Et en Inde, presque tout le monde utilise au départ. Puis après, certainement, si les cas sont graves, on va tourner vers la médecine classique. Mais de nouveau, on revient vers l'Ayurveda pour ce qui est des allergies, ce qui est des maladies graves et chroniques. Et en même temps, pour ne pas avoir des effets secondaires des médicaments ou des effets secondaires des traitements.
Et les médecins de médecine ayurvédique en Inde suivent une formation qu'on pourrait dire presque équivalente à celle des médecins de médecine occidentale, une formation en tout cas aussi longue.
Voilà, complètement comme ici, c'est-à-dire après le niveau de bac où il faut avoir la langue sanscrite et les sciences. Et puis après, il y a 5 ans et demi d'études et puis 2 ans comme médecin interne. Et puis la spécialisation de 2 ou 3 ans avant qu'on soit déclaré un médecin ayurvédique.
Vous avez récemment emmené des médecins français en Inde, hein, spécialement dans le Kerala, pour rencontrer des praticiens de l'Ayurveda. Comment s'est passée cette rencontre et qu'est-ce qu'il en est ressorti ?
Ah, c'était une rencontre fantastique. Il y avait 18 médecins de différentes facultés de médecine de Paris, de Genève et différentes parties de France et de Suisse. Et c'était pas en Kerala, on était dans le Gujarat, vers l'université de Jamnagar, l'université d'Ayurveda, et en même temps, on a vu la vie quotidienne des Indiens, comment ça se pratiquait. On a aussi observé et visité des facultés de médecine classique, mais surtout la médecine ayurvédique. Les médecins étaient très, très contents, ravis, et plusieurs projets de recherche, plusieurs projets d'intégration et compréhension de deux médecines qui semblent être plutôt complémentaires que parallèles.
Et quand vous parlez de projets de recherche, c'est de recherche qui montre l'efficacité de l'Ayurveda dans certains domaines.
Certainement, et puis certains projets de recherche qui seront pris en charge d'un côté par les universités indiennes et d'autre part par des hôpitaux français ici en France en parallèle. Et les médecins vont travailler ensemble. Il y a Dr Isabelle Nègre qui va venir pour le colloque international et en même temps en parallèle il y a des médecins qui vont venir de l'université de Jamnagar et on va essayer de développer un certain rapport entre les deux pays d'un côté, mais en même temps Tapovan qui a une pratique de 30 ans de yoga et d'ayurveda ici, nous allons être en sorte près d'union entre les deux.
Kiran Vyas, je l'ai dit hein, au début de cette interview, vous organisez un colloque sur l'ayurveda en Normandie. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce colloque ?
Pendant ce colloque la semaine prochaine, qui va avoir lieu à partir du 11 au 20 mai, Et il y aura plusieurs aspects, journée littéraire, puis la semaine artistique et cinématographique. Et dans cette semaine artistique et cinématographique, il y aura plein d'ouvrages et de cinémas, de courts-métrages et de longs-métrages avec leurs cinéastes sur la pollution, sur la santé, sur différentes pratiques de guérison comme le jeûne, comme l'Ayurveda et différentes pratiques comme ça. Et d'autre part, la grande rencontre des médecins ayurvédiques qui vont venir de quatre coins du monde, et ça sera quelque chose d'exceptionnel. D'autre part, dans le domaine de l'environnement, on organise l'événement qui s'appelle Jardin planétaire, et il y aura des personnalités comme Philippe de Grosse, professeur Bellepomme, Jean-Marie Pelt, puis Patrick Vivré, Patrick Baronnet, etc.
Merci beaucoup, Kiran Vyas. Je rappelle que vous êtes responsable du centre Tapovan, qui organise donc la semaine prochaine un colloque international sur l'Ayurveda. Vous trouverez sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé toutes les coordonnées de ce centre si vous voulez vous inscrire justement pour ce colloque. Merci beaucoup, Kiran Vyas. Yoran Mouchnik, merci également. Je rappelle que vous venez de publier un manuel des psychotraumatismes. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Émissions et Priorité Santé. Demain, je vous propose la rediffusion d'une émission sur les bienfaits de la méditation pour la santé. Au revoir à tous.